19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Quel plaisir, plaisir de vous retrouver comme chaque jour, ici même et dans les informés à 20h. Parce que nous allons commenter, analyser, décrypter l'actualité, chers amis. Alors au menu, tout d'abord, c'est le billet d'humeur. Le quoi de neuf avec, vous le savez, comme chaque mercredi, c'est Maître Fabrice Divisio et son billet d'humeur incisif. 19h30, l'autre quoi de neuf avec Dr Majid Seoussine. Vous aussi au 01 53 48 3000. Vous réagissez, vous commentez l'actualité avec nous comme vous le faites comme chaque soir. Ensuite, Sefiu, le rappeur, viendra nous parler. Eh bien, c'est le nouvel homme fort du Club House. C'est le réseau du Football Club du 93, puisqu'un événement à ne pas manquer se déroule ce dimanche. On vous dit tout dans une poignée de minutes. Les trois sujets qui ont retenu notre attention. La guerre en Ukraine, Poutine qui est décrit comme, alors, à vérifier, isolé, en colère, par les renseignements américains, mais surtout qu'ils se disent, alors, la CIA est en train de nous dire que le pire est à venir en Ukraine. Ça, c'est la CIA. On va en parler. Le Covid-19. Elisabeth Borne, la ministre, annonce la fin du protocole sanitaire en entreprise 14 mars. Que se passe-t-il? Nous allons tout vous dire dans une poignée de minutes avec la distanciation, le port du masque. Et puis, qu'en est-il donc après le 14 mars? L'autre sujet qui a retenu notre attention, c'est cette enquête de nos confrères de Mediapart. 8 femmes pour une certaine, à visage découvert d'ailleurs, qui accusent Éric Zemmour de comportement inapproprié, mais surtout, on parle de violence sexuelle. Est-ce que cela va affaiblir Éric Zemmour? C'est la question qu'on pose tout à l'heure. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et c'est parti pour démarrer cette émission, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, c'est avec Maître Fabrice Divisio. Bonjour Maître.
Bonjour Adil.
Comment ça va mon cher Maître?
Bah, écoutez, ça va. Ça vous va, allez... comme dans un pays, voilà, après le Covid, la guerre, tout va bien.
Allez, c'est parti, vous allez nous parler de cette, me semble-t-il, de ce que j'ai compris, d'Ukraine, de vivre ensemble, Black Blanc Beurre, enfin de plein de choses. Comme à chaque mercredi, votre rendez-vous billet d'humeur, c'est parti mon cher Maître.
Mon cher Adil, les jours se suivent et se ressemblent.
Ah oui.
L'Ukraine est gentille, la Russie est méchante, et gare à celui qui tenterait de mettre de la nuance, il risque la mort médiatique, la mort sociale, la mort peut-être même tout court si on en croit les menaces que nos compatriotes russes rapportent. Le vivre ensemble, mon cher Adil, la France Black Blanc Beurre, ne touche pas à mon pote, c'était le monde d'avant.
Ah, ça, c'est
dans
fini.
Le monde d'après, il y a la France des vaccinés et des pro-ukrainiens, la France du médiatiquement correct et politiquement acceptable, la France de la haine des siens et de l'exploitation de la misère des autres. Car soyons bien clairs, l'Ukraine est la misère bien réelle des populations civiles, n'est qu'un prétexte pour donner bonne conscience à une caste de bobos en proie à un sentiment étouffé de culpabilité devant leur silence coupable.
Vous avez le droit de clocher.
La situation des non-vaccinés avec elle les soignants suspendus. Oh, pas question de le reconnaître, pas question de dire que toute la politique sanitaire depuis 2 ans n'était qu'au service plus ou moins clair d'un projet de contrôle des populations. Pas question de reconnaître que nous sommes face au plus grand scandale que les sociétés modernes n'aient jamais connu et que le vaccin est en train de provoquer des dégâts terribles et terrifiants.
Oui, oui.
Pas question de reconnaître qu'un pour un sandwich et un coca en terrasse, un navet au cinéma ou une soirée entre potes qu'on n'aime pas, la plus grande part de la société a vendu son âme au diable et que se faire vacciner pour avoir une vie sociale était la plus grande escroquerie intellectuelle de l'humanité, acceptée qu'une déconcertante.
Ah, clochette!
Le déni est que ce qui aide nos concitoyens à vivre, à survivre, car si chacun se rendait compte de ce qu'il a laissé faire et de la société qu'il a contribué à bâtir, probablement qu'il en mourrait sur le champ terrassé de honte.
Aïe.
Alors, donner 2 euros aux Ukrainiens, arborer de partout le drapeau de ce noble pays que personne ne savait placer sur une carte il y a encore un mois et demi, et dont il n'est pas certain que le journaliste arrive à prononcer correctement le nom du président, regarder BFM à longueur de journée et menacer ces salauds de Russes, permet d'éviter de se trouver seul face à sa conscience.
Ouais.
Voici que même Salvini, le pourfendeur de l'immigration clandestine, le chevalier blanc du rejet des Noirs à la mer, tout à coup nous dit qu'il faut accueillir les Ukrainiens. Les bons chasseurs et les mauvais chasseurs ont cédé la place aux bons et mauvais réfugiés selon l'état des sondages. La guerre en Ukraine, enfin un combat qui mobilise les artistes, enfin un combat que partout dans les théâtres on peut jouer, à quoi servirait l'art si ce n'était pour se donner bonne conscience. Hier, tu étais Charlie, aujourd'hui tu es Ukrainien, Mais c'est pour mieux dire qu'en réalité, sans personnalité, tu n'es que tendance, celle d'une minorité bruyante pour qui tout est communication, tout est opportunité de se montrer, de s'afficher. Pour ma part, je n'étais pas Charlie, je ne suis pas ukrainien, mais je suis soignant suspendu, patient non vacciné discriminé, adolescent traumatisé par 2 ans de privation de liberté. Je suis en somme sous-citoyen emmerdé. Que je suis, c'est d'abord un serviteur de la vérité, un serviteur de la liberté, l'un n'allant jamais sans l'autre. Allez, mon cher Adil, j'y retourne. Je suis invité au resto et j'ai pas de passe vaccinal. Mais j'ai un drapeau ukrainien, ça devrait largement suffire. Et peut-être que même si je suis mort à Poutine, je pourrais avoir le repas gratuit.
Ah, vous êtes terrible. Bravo pour ce billet d'humeur, comme chaque mercredi. Vous allez pouvoir respirer, mon cher maître Fabrice Divisio. Lundi prochain, plus le pass vaccinal est suspendu désormais. Suspendu, pardon.
Mais mon cher Adil, moi je respire depuis bien longtemps. Je suis un sous-citoyen emmerdé. Je respire.
Eh bien, merci pour ce billet d'humeur, pour le Quoi de Neuf, à mercredi prochain sans faute. Merci à vous, je vous souhaite une excellente soirée.
Merci, monsieur.
Le Quoi de Neuf.
Les informés, l'interview.
L'interview, vous le savez, comme tous les jours d'ailleurs, ici même, dans Les Informés. Vous le savez, on va parler, eh bien, de ce Clubhouse. Un Clubhouse, c'est un réseau d'influence, vous savez, qui parle, qui veut faire de ce Football Club 93, qui réunit Bobigny, Bagnolet, Gagny, toute une série, parce que il veut devenir, évidemment, comment dirais-je, tout sur un premier plan. Et pour l'accueillir, j'ai envie de dire, un homme emblématique et ce nouvel homme fort de ce Clubhouse, il s'appelle, c'est un rappeur, il s'appelle Sefiu. Bonsoir Sefiu.
Bonsoir Adil.
Merci d'être avec nous Sefiu, rappeur, mais également surtout le nouvel homme fort, c'est comme ça qu'on vous décrit du Clubhouse. Qu'est-ce que c'est que ce Clubhouse, le réseau pour accompagner le Football Club 93?
Bah déjà, il faut savoir que le FC 93 est un club qui est monté en association et non pas encore en société. Donc c'est un club qui essaye de bénéficier des avantages, des subventions, c'est-à-dire des pouvoirs publics et autres. Et du coup, on essaie de le faire monter en compétence à travers ce club qui leur permettra d'obtenir un petit peu plus de visibilité, un peu plus de lumière, en y conviant pas mal d'acteurs déjà du territoire d'Île-de-France et également beaucoup de personnalités, que ce soit des artistes, que ce soit des acteurs, que ce soit des investisseurs. Donc voilà, on essaie de créer cette synergie entrepreneuriale autour du club, mais c'est aussi également pour apporter toute une mouvance de structure visant à amener les joueurs sur une tendance qui peut leur permettre d'avoir une visibilité autre que celle du football, à savoir dans l'entrepreneuriat. On essaie d'amener une dimension pédagogique également au niveau des académies, en les sensibilisant sur les métiers de transition, parce qu'il y a le football, mais il y a la vie d'à côté également. Donc voilà, c'est vraiment histoire de pouvoir structurer le club, lui apportant une perspective sportive et sociale.
Il est à quel niveau le club, me semble-t-il? Je crois que c'est à niveau national, hein, je crois, si j'ai cru comprendre.
Également, c'est un club qui est en... Tout à fait, c'est un club qui est au niveau national 2.
Donc bon niveau d'ailleurs.
Un très très bon niveau, hein. C'est un club qui a vraiment cette ambition de porter le département du 93 de Seine-Saint-Denis vers l'élite, et également aussi de pouvoir poser les jalons de ce département à l'image du football national, et j'ai pas peur de le dire, mondial également. Donc voilà, on a vraiment cette ambition d'amener tout ce département avec toutes ces synergies, toutes ces dynamiques, avec tous ces créatifs au haut niveau. Donc voilà, on a vraiment cette motivation. Et pour ça, il faut être ensemble, il faut mutualiser, il faut tenter de galvaniser, tenter de mettre en lumière ses talents.
Et pour galvaniser, comme vous dites, si j'ai bien compris, Sefiu, vous avez monté ce Clubhouse. Ce Clubhouse, c'est un club de réseau, justement?
Également, c'est un club de réseau. Donc, c'est un club, par exemple, lors du la première édition, nous avons invité des entrepreneurs, on a invité la BPI, il y avait c'est de la BPI qui allait à la rencontre de Luis Fernandez. Donc c'est vraiment des opposés qui s'attirent. Donc c'est Sefiu qui se retrouve en plein milieu du maire de Gagny et du maire de Bagnolet qui font partie également de cette coalition qui forme le FC93. Donc c'est pas mal de synergies qui se rencontrent. Donc c'est aussi ça le Clubhouse.
Le Clubhouse, c'est un événement qui se déroule dimanche prochain. Un grand événement, justement, que vous avez organisé, Sefiu. Justement, c'est un événement qui va se retrouver face au club rennais. Alors dites-nous tout, comment se déroule cet événement et de quoi s'agit-il, Sefiou?
Alors, vous faites très bien de me le signaler parce que bon, cet événement il est quand même assez particulier parce que c'est la première fois qu'une équipe du département, du district de Saint-Denis atteint ce niveau de la compétition de la Coupe Gambardella, qui est une coupe qui a été gagnée par des joueurs tels que Kylian Mbappé, Thierry Henry. Donc quand vous voyez un petit peu ce qu'ils sont devenus par la suite, donc vous imaginez un petit peu l'enjeu. Donc c'est important de souligner que le FC 93 est le seul club aujourd'hui de la région parisienne encore à ce niveau-là de la compétition. Et aujourd'hui, on veut le mettre en avant. On essaie de créer plus ou moins l'événement pour ce dimanche 13 mars 2022 au stade Auguste Delaune de Bobigny pour amener toute cette dynamique, amener toute cette énergie autour de cet événement-là et surtout mettre de la lumière autour du fait que c'est une première. C'est une première et ça se passe en 93. Ça se passe en Saint-Denis et c'est le FC 93 qui honorera sa participation à cette Coupe Gambardella. Et voilà, on va essayer d'inviter pas mal de personnalités telles que Boudère, moi-même Sefiou. Il y aura également, je ne sais pas si on peut le dire, mais des ministres également qui sont présents. Il y aura le maire de Gagny, il y aura également le maire de Bobigny. Il y aura John Rachid, il y aura voilà, pas mal d'acteurs, donc pas mal d'acteurs qui font partie également, qui sont aussi des décideurs locaux, mais aussi des acteurs sociaux, des entrepreneurs, des sportifs, des acteurs, des artistes. Donc voilà, on va essayer de faire une belle fête autour de cet événement-là. Et d'ailleurs, Monsieur Adil Farkan sera là également.
Avec plaisir, merci. Avec plaisir, bien sûr, avec plaisir. Donc, merci pour l'invitation.
Voilà. Donc,
l'enjeu de cet événement justement face au Stade Rennais. Qu'est-ce que vous attendez justement et qu'est-ce que vous espérez de cette journée qui se déroule au stade de Bobigny?
Bah, on espère déjà dans un premier temps que le FC 93 devienne la place to be. C'est-à-dire que ça devienne vraiment la place d'ancrage pour les clubs les clubs du 93 déjà, que les clubs pensent à cette idée de mutualiser parce que je pense bon, qu'il y a le Paris Saint-Germain aujourd'hui, il y a le Paris FC, il y a Créteil, il y a le Red Star, il y a de beaux clubs, mais dans le 93, un club d'ancrage aussi fort qui se rapproche autant des cités, je pense qu'il y en a peu. Et aujourd'hui, il faut le souligner. Donc on aimerait vraiment proposer cette dynamique en mettant en avant l'événement, en disant que le FC 93 qui se retrouve en plein milieu d'une banlieue parisienne, à savoir à Bobigny, qui réunit tous ces jeunes qui viennent de Villemont, qui viennent de Gagny, pardon, qui viennent de Bagnolet pour le moment, et qui viennent d'Aulnay également, pour d'autres aussi qui viennent du Blanc-Mesnil ou de Sevran, on essaie de leur dire, voilà, venez participer à ce projet de mutualité, à savoir ce projet de fédération qui va permettre en fait de rassembler toutes les synergies du 93 autour d'une seule et même idée. Et l'idée, c'est vraiment de mettre ça en avant et de dire que le 93, c'est un département qui évolue ensemble. On ne cherche pas à être les meilleurs du monde ou les meilleures individualités du monde, on cherche à être la meilleure équipe du monde.
Alors tout le monde est attendu. Bien sûr, évidemment, tous celles et ceux qui nous écoutent, tout le monde est le bienvenu, tout le monde est attendu. Ça se passe où précisément? Dites-nous, et à quelle heure?
Alors, ça va se passer ça va se passer ce dimanche 13 mars à partir de 13h30 au stade Auguste Delaune à Bobigny.
Eh bien, écoutez, c'est noté. On y sera. Le rendez-vous est noté. Merci en tout cas à vous. Sefiou, le rappeur, qui s'inscrit désormais dans ce clubhouse avec le FC, donc le football FC 93. Merci. Rendez-vous donc dimanche à ne pas manquer à 13h30. Merci Sefiou.
Merci à vous.
Tout de suite, 19h14, la pub, et on se retrouve tout de suite après avec justement les différents rendez-vous, les sujets qui ont retenu notre attention. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et il est 19h20 et c'est en direct, les informés, vous le savez, comme tous les jours d'ailleurs, et vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. L'invité du jour continue évidemment, bien sûr, tout de suite maintenant dans les informés.
Les informés, L'interview.
L'interview, vous le savez, je ne le présente même plus. Il est le maire de Clichy-sous-Bois, président de l'ANRU, mais surtout incontournable aujourd'hui, soutien d'Emmanuel Macron en Seine-Saint-Denis, monsieur Olivier Klein. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour Adil Farkan.
Comment allez-vous, mon cher Olivier Klein?
Écoutez, bien.
D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas accueilli sur les ondes de Beurre FM.
Absolument.
En tout cas, on est ravis de vous.
Je serais venu de venir dans vos studios la prochaine fois. Aujourd'hui, c'était un peu juste parce que la journée était très bien remplie, très riche pour Clichy-sous-Bois, avec par exemple l'accueil de Tony Parker sur une très belle initiative. Mais la prochaine fois, je viendrai vous voir.
Écoutez, avec grand plaisir, vous le savez, vous êtes également ici le bienvenu, Olivier Klein, monsieur le maire, monsieur le président de l'ANRU. On va parler, vous savez, du mandat que vous a évidemment proposé Emmanuel Macron. Vous avez été mandaté par Emmanuel Macron, justement, dans tous les quartiers populaires de France. Alors, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de cette, évidemment, en pleine campagne présidentielle? Est-ce qu'il s'agit là, monsieur Olivier Klein, d'aller prendre votre bâton de pèlerin et d'aller récolter toutes ces doléances des quartiers populaires? De quoi s'agit-il précisément, Olivier Klein?
Alors, le titre, si tant est qu'il y en ait un, c'est d'être relais de la campagne d'Emmanuel Macron sur la question de la ville et des quartiers populaires. Donc oui, effectivement, c'est d'aller rencontrer des présidents d'associations, des militants associatifs, rencontrer des sociologues, des spécialistes de l'éducation prioritaire, des habitants un peu partout pour écouter, voir ce qui a été perçu comme réussi pendant le quinquennat, mais surtout qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux en faveur des quartiers populaires.
Alors quels sont les échanges, justement? Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont, par exemple, les principaux, hein? On va pas évidemment tout citer là, on n'a pas le temps, mais on aura l'occasion de le dire. Mais qu'est-ce qui revient régulièrement, évidemment, lorsqu'on parle du mandat d'Emmanuel Macron?
Alors d'abord les réussites, comme le dédoublement des classes préparatoires, les vacances à apprenantes, mais aussi les difficultés de vivre au quotidien dans ces quartiers populaires, la question du logement, la question de l'emploi, la question de la tranquillité, enfin ce qu'est notre quotidien, donc à la fois des choses qui vont bien et aussi des choses sur lesquelles il y a des impatiences. Dans certains quartiers, on me parle renouvellement urbain comme étant une grande réussite parce que on voit les quartiers se transformer. Dans d'autres, on me dit on voudrait que ça aille plus vite, on voudrait que ça aille moins vite. Enfin, c'est tout ça la richesse de la politique de la ville et surtout la richesse des militants associatifs que je rencontre. À Clichy-sous-Bois, par exemple, Passons-nous a fait une étape de son tour de France avec Mohamed Mechmash. Ils seront à Paris ce week-end et j'irai à nouveau les rencontrer. Ils ont recueilli toutes les attentes des habitants des quartiers populaires comme d'autres associations. Donc c'est très riche et j'espère pouvoir apporter au président de la République la richesse de ces échanges.
Mais alors, ok, c'est bien ces échanges, c'est bien aussi toutes ces doléances, mais qu'allez-vous faire avec tout cela? Est-ce que cela, vous allez remonter toutes ces requêtes auprès du président de la République, du chef de l'État, et pourquoi faire?
On est dans une période d'élection présidentielle, donc de campagne électorale. Il faut bâtir le projet et le programme que sera celui du président de la République et puis ensuite celui du futur gouvernement pour les élections législatives. Donc j'espère qu'un certain nombre des idées qu'on apporte pourront être reprises, seront jugées comme réalistes et utiles pour les habitants de ces quartiers.
Qu'est-ce que vous répondez, monsieur le maire, monsieur Olivier Klein, à toutes celles et ceux, vous savez, qui ont un véritable divorce avec la politique? Aujourd'hui, par exemple, en pleine campagne présidentielle, on est aussi en pleine guerre d'Ukraine, certains se disent, c'est plié, cette présidence, cette présidentielle, Emmanuel Macron repasse. Vous leur répondez quoi et comment les sensibiliser, Olivier Klein?
Moi, je crois d'abord que avoir le droit de voter, c'est un droit essentiel et on le sent encore plus en ce moment quand la démocratie dans certains pays est en danger et la République est en danger. Donc moi je leur dis, allez voter. Et ensuite, allez voter dans l'intérêt de ce qui est ma boussole, c'est-à-dire les habitants des quartiers populaires. Allez voter dans l'intérêt de notre société, parce que je crois aussi qu'il s'agit de modèles de société. Il y a ceux qui pointent du doigt les quartiers populaires, qui les stigmatisent, qui parlent de l'armée, qui parlent des carchères, qui parlent honteusement des habitants de nos quartiers en disant qu'ils sont parfois même un danger, alors que moi je pense qu'ils sont une chance. Donc voilà, avoir la chance d'aller voter, c'est extrêmement important.
Donc si j'ai bien compris, vous appelez les quartiers populaires à se mobiliser durant cette campagne présidentielle.
Si on veut être plus fort, si on veut être plus fort après pour faire entendre notre petite voix, c'est 6 millions d'habitants qui habitent dans les quartiers populaires. Et je pense que c'est l'avenir du pays qui est dans ces quartiers. Et ça doit peser, et ça doit aussi peser le jour des élections. Sinon, on risque d'être parfois un peu oublié, alors que on a tellement besoin dans ces quartiers d'une école, et j'ai parlé tout à l'heure des CPA12, qu'on a besoin d'aller plus loin dans ces mesures sur les transitions, comment on passe du CM2 à la 6e. Vous savez que je suis prof et la question de l'école est très chère, et elle est aussi très chère au président de la République. Il l'a dit il y a quelques jours au début de sa campagne, l'éducation sera au cœur de son projet, et j'espère avoir fait entendre une petite musique sur qu'est-ce qu'on peut faire dans les écoles des quartiers populaires pour être encore plus utile à la réussite de nos enfants.
Monsieur le maire, Olivier Klein, vous avez lancé un comité de soutien en direction justement de la candidature, pour soutenir la candidature d'Emmanuel Macron. En quoi ça consiste ?
On dit souvent que le président de la République est éloigné des élus, éloigné du terrain, et la réalité, c'est qu'on est maintenant un certain nombre d'élus locaux, de maires à vouloir le soutenir. Et donc, avec des amis élus à l'est de la Seine-Saint-Denis, on a composé ce comité de soutien, d'abord d'élus locaux, mais bien évidemment notre objectif c'est de nous élargir à des habitants, à des responsables associatifs, et donc on se réunit vendredi soir pour acter ce comité de soutien, s'organiser, parce qu'une campagne électorale, c'est un enjeu, évidemment, il ne faut pas penser que les élections sont jouées, au contraire, il faut aller voter, et donc on va commencer ce que l'on sait faire le mieux, aller faire du porte-à-porte, aller convaincre les électeurs un de ne pas rester chez eux et de voter pour Emmanuel Macron. En tout cas, c'est d'aller voter et aller voter Emmanuel Macron s'il m'écoute.
Olivier Klein, quel est le sujet principal, la priorité, selon vous, Olivier Klein, des quartiers populaires? Qu'allez-vous dire, vous, à Emmanuel Macron? Le sujet, si je dois vous demander de choisir un sujet prioritaire pour les quartiers populaires.
Je crois que c'est la question du logement. Aujourd'hui, cette question, elle est extrêmement compliquée. Avoir un logement, c'est un nouvel Eldorado. Donc je pense qu'il faut se donner les moyens de construire plus de logements, d'aller plus vite, de construire du logement social partout et pour tous. Et je pense vraiment que cette question-là est essentielle. Et après, celle de l'école, celle de l'emploi, mais celle du logement, elle est vraiment extrêmement importante. Et je pense que chacun en a conscience, il faut permettre le parcours résidentiel, et pour ça il faut construire tous les types de logements possibles et les construire beaucoup plus vite que c'est le cas encore aujourd'hui.
À 30 jours des élections, ce sera ma dernière question. Vous voilà, si j'ai bien compris, donc relais des quartiers populaires. Qu'est-ce qui va se passer ?
Je suis pas le seul, il y a plein de gens, et notamment des présidents d'associations, des militants associatifs qui sont ces relais du quotidien, et je veux vraiment saluer leur travail.
Que va-t-il se passer, vous, Olivier Klein? Il reste 30 jours, un peu moins d'ailleurs. Comment comptez-vous vous organiser?
Alors, pour ce qui est de la campagne à Clichy-sous-Bois et dans les villes voisines, c'est des méthodes assez classiques, et notamment du porte-à-porte, parce que je crois à cette obligation que l'on a, nous les hommes politiques, à aller, pas seulement au moment des élections, et vous me connaissez, vous savez que aller à la rencontre des Clichois, je le fais de manière quotidienne, mais aller porter le projet, dire à quel point c'est important de voter, de ne pas laisser les autres décider, parce que vraiment aujourd'hui, compte tenu de la situation internationale, on a une obligation à aller voter, on a une obligation à garder un président de la République qui est dans cette crise dramatique à la manœuvre, utile à notre pays et je crois utile au retour de la paix.
Eh bien, merci Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, président de l'ANRU.
Merci beaucoup, Anita Kahn.
Et avec grand plaisir, et on vous attend dans les studios, hein, on vous attend.
Allez, avec grand plaisir, je reviendrai pour plus longtemps.
Voilà, absolument, pour plus longtemps, et parler de ce fameux comité de soutien, notamment à Emmanuel Macron. Merci monsieur le maire, à très bientôt. 19h30, le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
Je sais Farid Aed, bonjour, comment ça va? Et Gamal Abina aussi également, comment ça va?
Très bien.
Comme chaque mercredi, c'est le docteur Majid Seoussine qui vient nous livrer son billet d'humeur corrosif, justement. Bonsoir docteur.
Bonsoir mon cher Adil.
Bienvenue, c'est parti pour votre billet d'humeur, on vous écoute. Évidemment, il s'intitule « Moi président ».
Eh bien, écoutez mon cher Adil, eh bien ça y est, ils sont tous là. On a tremblé, frémi, certains auraient pu ne pas être prêts pour le rendez-vous tant attendu, malgré leur entraînement intense, rigoureux de tous les jours, qui peut durer 5 ans pour certains. Quelqu'un aurait pu ne pas être à l'abri d'une disqualification de dernière minute. Même le petit dernier issu des matchs de barrage a réussi à être là et on s'en réjouit car on va avoir droit à 4 semaines d'intenses spectacles, de performances où chacun d'entre eux donnera ses selons, le meilleur ou le pire de lui-même pour être le Highlander en avril. Je ne parle pas des éliminatoires de Roland-Garros ou des Jeux Paralympiques, quoi qu'on puisse se poser la question en regardant Jean Lassalle, mais bien sûr, vous l'avez compris, des candidats à la présidentielle. Ils sont 12. Comme les 12 apôtres du Christ, il n'y aura pas de 13e, la table, et on le regrette pour le parti animaliste. Ah, oui. Certains, me direz-vous, ne sont pas des perdreaux de l'année et en sont à leur 3e candidature. Nathalie Arthaud, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, qui jure sous tous les grands dieux et tous les saints du paradis que sera sa dernière campagne si elle n'est pas élue. Ce qui m'inquiète un peu quand même, car je plains ceux qui vont en 2027 faire un sacré boulot pour arriver à être au deuxième tour. Car voyez-vous, Adil, aujourd'hui, être président en France, c'est extrêmement simple. Ah. Il suffit d'être fort en croche-pied au premier tour pour se retrouver au deuxième tour face à Marine Le Pen, et c'est gagné. Vous êtes président pour 5 ans. Ouais. Même moi, si j'étais au second tour avec elle, je gagnerais. Il suffit de l'énerver un peu pour qu'elle lâche 2-3 bêtises et c'est gagné. Les Français en voyant se diraient « la France est malade, elle a besoin d'un bon médecin » et hop, on vote pour Magic Siocine. Et je peux vous dire que moi président, tiens ça vous rappelle quelqu'un peut-être ça, moi président dirais-je, ça filerait droit. J'interdirais la fonction de maire de Paris pour avoir le plaisir de rouler en 504 Peugeot diesel à 90 km/h sur
c'est
les
Champs-Élysées. C'est pas mal, ça c'est bien vu, hein. Effectivement.
J'organiserai une chorba partie géante sur la place de la Concorde et j'obligerai Éric Zemmour à remplir à la louche vous les bols terrible. Des réfugiés africains. Et vous je ferai terrible. Reconstruire Notre-Dame de Paris en y ajoutant un minaret. Rassurez-vous, Adil.
Voilà, vous avez droit à la clochette, voilà, vous avez tout compris.
Rassurez-vous, Adil, je plaisante. Je ne serai pas candidat cette fois-ci, et c'est bien dommage pour la France, car ma première décision serait de faire promulguer une loi contre la bêtise pour l'interdire définitivement, mais je crains que malheureusement dans ce cas, elle subirait un veto du Conseil constitutionnel.
Aïe, 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 bravo pour ce billet d'humeur. Billet d'humeur d'ailleurs, toujours aussi bien écrit. Merci mon cher docteur Majid Soussine.
À votre service.
À mercredi sans faute.
Sans faute.
Avec plaisir, 19h34 précisément. Je vais accueillir le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Bonsoir Farid, être conseiller municipal à Pierrefitte. Bonsoir Farid.
Bonsoir Adine.
Désolé, hein, j'ai pris beaucoup de retard.
Hein. Oui, j'ai vu.
Vu le tunnel, mais ça valait le coup, ça valait le coup. Bon, Gamal Abina, bonsoir.
Bonsoir Adine.
Évidemment. Merci messieurs. Tout de suite, nous allons attaquer avec ce premier sujet. Allez, la guerre en Ukraine. Le renseignement américain, vous savez, la CIA décrit Vladimir Poutine comme isolé et en colère. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils disent ? Que le pire est à venir. Qu'est-ce que vous répondez ? Et est-ce que vous partagez cela ? Gamal Abina et ensuite Farideh.
Information de propagande bidon qui ne veut rien dire. Ils sont au courant de rien.
Ah oui, il a droit à une clochette, lui. Il démarre fort. Hein.
C'est la réalité, malheureusement.
Oh là là ! Ah ouais !
On est en pleine guerre de propagande. Et d'ailleurs, je tiens quand même à rendre encore... un petit message à nos amis de RT France, avec lesquels j'ai travaillé longtemps, aujourd'hui sont menacés, écoutez bien, c'est pas une plaisanterie de la part de la commission de la carte d'identité des journalistes français, ils sont menacés de ne pas être renouvelés dans leur carte d'identité en tant que journaliste, donc leur carte de presse, parce qu'ils travailleraient pour RT. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Donc
là, faut pas toucher la liberté d'expression, là.
Au-delà de la liberté d'expression et de travail.
De
travail. Donc, pour une suspension arbitraire, ils se retrouvent en plus menacés dans leur métier. Donc ça, c'est un peu honteux. Et puis à côté de ça, oui, on est
Poutine,
en pleine guerre.
Bah, oui. Le propagande, problème, vous dites propagande.
Propagande, parce que Poutine est très solide.
Hein, vous dites pas que le pire est à venir, non ?
Ah, pas du tout. Non. Il a écrasé l'armée ukrainienne, il reste rien de l'armée ukrainienne. C'est quoi ? Leur président qui est en panique et qui en veut aux Européens maintenant, il lui dit ouvertement, vous m'avez laissé tomber. Leur président Zelensky dit quoi ? Parce qu'il a cru au baratin des Européens, on va vous protéger, l'OTAN et tout. Il dit quoi aujourd'hui ? Vous m'avez laissé tomber, envoyez-moi au moins des avions. Il n'a plus rien. Poutine, le premier jour, a détruit 58 avions de combat au sol. Il a fait une blitzkrieg, je traduis guerre éclair. Que les nazis avaient pratiqué contre la Pologne à l'époque. Il a été à bonne école. Et donc, Poutine a exercé une stratégie de guerre qui consiste à déstructurer l'armée détruire les moyens de communication, détruire évidemment, aujourd'hui il est en train de s'emparer de tout.
C'est le conseiller spécial caché de Vladimir Poutine.
Du tout, c'est de la
Gabaladina.
C'est très classique hein, ce que je dis.
Poutine, j'ai fini à par contre, vous êtes son conseiller spécial.
Dieu m'en préserve parce
aïe,
que.
Aïe, 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 vous défendez été... Vladimir.
Non, je ne parle pas Poutine, je dis des vérités.
Ça change des lignes officielles depuis des jours.
Et bien on va le retrouver juste après la pub.
On est loin.
Giovanni me dit qu'il faut lancer la pub.
Juste pour dire une chose très importante, je ne défends pas Poutine parce que je l'ai détesté en Tchétchénie, donc il faut être très clair. Je dis juste ce qui se passe aujourd'hui.
Je vous redonne la parole et je voudrais entendre Farid. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h41 précisément, si vous venez de nous retrouver, le face-à-face avec Farid Ed, conseiller municipal sur la ville de Pierrefitte, mais également aussi Gamalabina. Messieurs, alors Farid Ed, on vous a pas entendu, frustré, en colère, c'est la CIA qui dit ça, qui dit notamment même le pire scénario est à venir pour l'Ukraine. Farid Ed,
alors
j'imagine que vous avez... partagez pas du tout l'avis de Gamal Abida.
Ah non, mais j'ai entendu Kamel, là, je me suis dit, ah, Gamal a tout sorti. Je me suis dit, il a tout sorti, là, en espace
je
de.
Je vous jure, j'ai cru que c'était le conseil spécial. L'envoyé spécial, c'est même pas le conseil. L'envoyé spécial.
Mais il paye pas en ce moment.
Ah ouais, je me suis dit. Alors, d'abord, deux, trois choses. D'abord, je voudrais dire ma solidarité, mon soutien au peuple ukrainien dans cette souffrance, parce que aujourd'hui, qui trinque, aujourd'hui, c'est ni Poutine, c'est ni le président ukrainien, même s'il est, on nous dit devant et que c'est un président courageux, etc. Bon, je veux bien, mais en tout cas, c'est le peuple, et c'est le peuple qui doit partir de son pays, et moi, j'ai une pensée pour toutes ces personnes-là, et cette solidarité, ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi, moi, je pense que les Américains, depuis des années, ils dramatisent toujours les choses et ils l'ont fait dès le début. Ils ont dramatisé les choses. Ils ont dramatisé les choses pour faire en sorte que les choses se crispent et que l'Europe, alors l'Europe qui était divisée, l'Europe qui était même, on disait l'OTAN qui allait, qui s'effondrait longtemps. Aujourd'hui, on voit qu'il y a, un recerclement. En tout cas, l'OTAN se ressoude autour de l'Ukraine. Ça, c'est la première chose. Moi, je pense pas que comme tout à l'heure, tu as dit, Adil, que Poutine est isolé et enfermé. Moi, je pense que Poutine avait une stratégie. Il a mis en place cette stratégie, même si elle est moins rapide, même si il aurait souhaité qu'elle soit un peu plus forte. Néanmoins, je pense que il est dans sa fonction. Il veut faire plier l'Ukraine. Il a commencé et on le voit bien depuis quelques jours qu'il y a des négociations qui sont en cours pour essayer de trouver un arrangement pour faire en sorte que on accepte que la
donc
Crimée,
sortie de crise possible.
Sortie de crise possible avec la Crimée, avec le Donbass, etc. Et je pense que ça c'est important et c'est pour ça que je pense que même si on fait des sanctions importantes au niveau de la Russie, je pense qu'il ira jusqu'au bout. Néanmoins, on doit quand même dire à Poutine qu'il faut cesser et qu'il faut arrêter la guerre et se mettre autour d'une table. Je pense que ça, c'est important.
Sortie de crise possible, Gamal
Abidjan? Oui, on va déjà, pour donner un exemple très concret, spécial de ce que j'observe de loin. J'aimerais bien qu'ils me donnent l'argent, mais ils ont coupé Swift, donc il y a plus moyen, quoi. Il y a bien plus
de temps.
Donc oui, pour être plus sérieux, là, le pétrole a baissé de 10% aujourd'hui, à peu près. Il est à 120 $ à peu près. Pas loin, enfin, 118, 120, je crois. Ça recule. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les marchés financiers vont anticiper les négociations qui sont à venir. En vérité, l'échec est total, et c'est vrai que c'est bien d'avoir appelé, j'apprécie cette démarche, qu'il faut avoir une pensée pour les peuples qui sont quand même sous la guerre. Même si les villes ne sont pas rasées, même si ce n'est pas Grozny, il n'en demeure pas moins que la guerre, c'est une panique, c'est une peur, c'est un traumatisme, c'est des pertes, morts, c'est souvent des morts et des pertes matérielles. Donc tout ça, c'est des choses qui sont réelles. Maintenant, comment, oui, je parle même des soldats russes et ukrainiens qui meurent, parce que ça reste des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, les lignes ont bougé, littéralement. C'est-à-dire que l'OTAN, qui s'étendait de façon abusive, il faut le reconnaître, aujourd'hui a compris qu'il y avait une ligne qu'il ne fallait plus franchir. Ils n'ont pas pris Poutine au sérieux. Ils ont cru qu'ils pouvaient l'attaquer. Ils ont fait des représailles économiques ridicules. Toutes ces représailles économiques sont en train de faire souffrir l'Occident et pas l'Orient. C'est-à-dire que l'Europe orientale. Les Russes sont blindés d'argent. Ils ont 600 milliards de réserves de change. Gaz, pétrole, blé.
Sauf que là, les sanctions, ça fait mal.
Ça fait mal quand même.
C'est très marginal au regard de ce qui se passe. Non, on regarde ce qui se passe en Allemagne. Les Allemands ont une réserve stratégique de gaz et de pétrole de 3 mois. Ils ont déjà dit, ils sont en panique, les Allemands. Si on nous coupe le gaz et le pétrole russe,
je précise. La France, le patron d'Engie a parlé là. Cet été, on risque d'être.
Non, c'est pire. Non, parce qu'il y a l'alternative pour les Français. Les Allemands n'ont pas d'alternative. Les Allemands, c'est la Russie qui alimente Nord Stream 1 et 2. Et donc, si on leur coupe ça, c'est 55% 40% de gaz en moins, c'est 42% de pétrole en moins, et c'est 50%, parce qu'il faut savoir que l'Allemagne produit effectivement du charbon, mais ils n'en produisent pas suffisamment. 50% de charbon qui vient de Russie. Donc les Allemands sont en panique, ils disent, nous, on risque de se retrouver avec des entreprises à l'arrêt parce que pas d'électricité. Donc ceux qui sont en train de souffrir, les Français par exemple, qui ont sanctionné la Russie aujourd'hui, tous les grands groupes de cosmétiques, de luxe en Russie ferment leurs enseignes. Groupes français. Donc en vérité, ça fait pas mal à la Russie parce qu'ils ont déjà eu un train de sanctions en 2014 qui leur a profité. Les gens l'ont oublié. Le Russe n'était pas producteur excédentaire de blé, ils le sont aujourd'hui parce qu'ils ont mis le paquet. Donc il faut toujours se méfier de ce qui est dit dans les médias.
Oui, mais en même temps, je pense que les sanctions sont aussi importantes. Alors, c'est vrai, pas pour les oligarques, pas pour Poutine, mais aussi pour le peuple russe. Il faut penser aussi au peuple russe qui vit aussi une souffrance. Il y a des milliers de Russes qui manifestent aujourd'hui pour dire il faut la paix et il faut que on puisse retourner à la table des négociations. Oui, ça, c'est important. Deuxième chose aussi qui est importante, et je pense que, alors, c'est normal que Emmanuel Macron, qui est président pendant 6 mois de l'Union européenne, il fallait qu'il se fasse voir. Oui, en plus, il y a les élections présidentielles. Il fallait qu'il dise au peuple français, je suis là pour vous protéger, etc. Mais c'est les conséquences. Les conséquences vont pas être aussi en direction de Macron et des ministres. Moi, j'entends les ministres qui disent sur les plateaux de télévision, oui, mais on va faire des sanctions, etc. Mais les sanctions, c'est le peuple français.
Bien sûr. On va
l'augmentation du gaz, de l'électricité,
le pouvoir d'achat,
l'augmentation de l'essence, etc. Ça veut dire que il faut aussi qu'on fasse attention aussi, nous, les Français, à pas aller aussi dans l'excès.
Moi, j'ai une question à poser. Moi, je n'accepte pas une chose. Le deux poids, deux mesures. Oui. Au nom de quoi la France, et d'ailleurs toute l'Europe au demeurant, mais la France en particulier, qui est quand même très arrogante dans l'histoire, vient nous expliquer quoi que Macron a essayé de garder du lien avec Poutine, parce que Macron pense à l'après, il n'est pas bête. Hein. Oui. Au nom de quoi la France va faire des sanctions à un pays comme la Russie, qui est une hyperpuissance, au même titre que les États-Unis. Au nom de quoi cette France va faire sanctions comme l'Angleterre et tous les restes de l'Europe, alors qu'ils n'ont pas appliqué ces sanctions à un pays agresseur aussi. Je parle de l'Arabie, le plus riche au monde quasiment, face à un des pays les plus pauvres au monde, l'Yémen. Là, non seulement il n'y a pas de sanctions, en plus, ils vendent des armes. Moi, je ne comprends pas, parce qu'apparemment, le bougnoul, il peut mourir au Yémen, ça ne dérange pas, mais le blond aux yeux bleus, je l'ai entendu, hein, dans un média anglais, le blond aux yeux bleus, il a le droit de vie. Eh bien, je n'accepte pas cela. Ensuite, il y a une autre chose qu'il faut regarder en face. En Ukraine, on a eu, il y a un groupe de néo-nazis très connus, hein, très puissants, il y en a trois pour être très petits, dont un en particulier qui a exercé des fonctions au pouvoir, qui ont mis le feu dans le Donbass. Donc je veux bien qu'on noircisse ce tableau en disant que Poutine est un fou, ce qui est ridicule, le demeurant, il n'est pas du tout fou. Hein. C'est un type très équilibré, c'est ce qu'il fait. Et que de l'autre côté, on a de pauvres Ukrainiens victimes. Il y a un peuple victime, c'est indiscutable. Il y a un président incompétent, c'est indiscutable, un acteur. Et il y a un homme politique qui est un stratège, qui est Poutine, qui a compris que ce qu'il a fait en Géorgie, et il a fait la même chose en Géorgie par rapport aux régions du nord de la Géorgie, il l'applique avec brio. En Ukraine.
Messieurs, second sujet, nous allons avancer dans cette émission dans Les Informés. C'est ces violences conjugales. Pendant plusieurs mois, Mediapart, chez nos confrères, ont enquêté. Mediapart a enquêté plutôt et recueilli, vous savez quoi, plusieurs témoignages de plusieurs femmes, 8 au total, qui accusent le candidat, justement Éric Zemmour, de comportement inapproprié, mais surtout d'agression sexuelle. Alors ces faits, présumés, bien sûr, je fais attention à ce que je dis, datent de entre 1999 jusqu'à de 1999 à 2019. Que peut-on dire ? Est-ce que cela risque d'entacher, d'affaiblir Éric Zemmour ? Parce que 8, c'est pas 1, 2, c'est pas 1, 2, c'est beaucoup. Gamal Abida.
Bien, moi, j'ai envie de dire une chose. Moi, j'ai aucune sympathie pour Éric Zemmour parce que c'est un révisionniste. Il faut utiliser le terme. En matière d'histoire, c'est de la révision qu'il est en train de nous produire. En revanche, ils ont, évidemment, c'est les femmes de gauche en général qui lui reprochent ça. Donc, on peut imaginer que Zemmour aimait bien la gauche, apparemment, à une époque. J'ai envie de dire une chose simplement, c'est que Mediapart, et d'ailleurs, les gens qui lui sont opposés, jouent leur jeu et leur partition avec brio depuis MeToo. On se rend bien compte que MeToo a fait tomber, évidemment, Ramadan, tout le monde l'a entendu, mais pas seulement. On a eu récemment encore Bourdin qui est tombé sur des suspicions. Alors, je suis évidemment, on est au lendemain du droit des femmes qui doit être exercé pleinement et totalement, et ça, je le revendique, mais je considère que la suspicion portée sur une personne ne doit pas disqualifier cette personne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sanction avec, après enquête sérieuse et diligentée par la justice, il faut qu'il y ait une sanction exemplaire si la personne effectivement est coupable des faits qu'on lui reproche. En l'occurrence, pour le moment, on a des faisceaux de personnes qui parlent. C'est vrai que 8 personnes, ça pourrait faire penser à des, ce qu'on appelle des témoignages concordants. Donc c'est un peu dangereux pour lui, mais je n'ai pas envie d'accuser un ennemi politique.
C'était à l'époque où il était éditorialiste.
Oui, de toute façon, je n'ai pas envie d'accuser un ennemi politique d'un comportement trouble. Après, il faut.
Attention, les témoignages, c'est face caméra. Hein.
Oui, j'ai bien vu. Mais comme depuis MeToo, toutes sont face caméra quasiment. Ndayari, qui est aujourd'hui disqualifié, est face caméra. Mais ce qui se passe, était face caméra. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire une distinction entre l'action politique.
Il n'y a pas d'enquête ouverte, hein, parce qu'aucune d'entre elles n'ont porté plainte.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut se poser la question. Ça tombe un point nommé sur des faits qui sont très anciens. qui sont donc difficilement qualifiables, parce qu'évidemment,
donc la justice ne peut pas ouvrir
de. Mais par contre, ça salit sa réputation. Après, et pourtant, c'est un ennemi politique. Je considère qu'il faut pas taper sous la ceinture. S'il a effectivement un comportement déviant, comme beaucoup de gens dans les médias, ne nous racontons pas l'histoire. Quand on est un petit peu connu, en règle générale, on attire la sympathie des femmes, et quand on n'est pas des playboys, c'est plus facile avec les médias, faut le reconnaître. Et l'autre côté, ça peut se retourner contre soi.
Farid Ed.
Oui, moi, sur cette question-là, d'abord, je pense qu'on devrait plus s'attacher au contenu véhiculé par Éric Zemmour et l'attaquer sur ça que commencer à sortir des choses où on n'a pas tellement la maîtrise. Alors moi, sur ce sujet-là, comme j'ai pas la maîtrise, eh ben, je dirais rien. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que s'il y a plainte, c'est vrai que s'il y a mise en examen.
Ah, bah quand même, il y en a certains, vous savez ce qu'elles disent?
Voilà.
Elles disent, Éric Zemmour, il me prend avec ses mains, il me bloque contre la paroi de l'ascenseur, il m'embrasse de force sur la bouche. Il y a quand même des détails. Hein,
Non, mais moi, Adil, je reviens pas sur ça. Mais c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, Adil.
Il me fourre sa langue dans sa bouche. Je suis dégoûté, je suis mal.
Adil, tu l'as dit tout à l'heure. Tu as dit qu'il n'y a pas de plainte contre Éric Zemmour. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de plainte, eh ben, le parquet, il ne peut pas...
Oui, il n'y a pas d'instruction, il n'y a rien.
D'instruction, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de mise en examen, etc., etc. Ça veut dire que moi, je veux bien qu'on discute pendant 2 heures sur cette question-là. Moi, je pense qu'elle est secondaire. S'il y a vraiment des choses, que les personnes portent plainte et qu'à la justice de faire son travail, mais attaquons Zemmour sur son contenu. Et c'est ce qu'il a dit quand il a été interpellé à LCI. Vous avez vu, Adil, à LCI, quand on a parlé du 8 mars et qu'il avait un échange avec des femmes sur ses propositions, quand une jeune femme lui a dit, mais moi je viens du Sénégal je suis française, qu'est-ce que vous... Alors il a dit, non, vous êtes française, il n'y a pas de souci, mais si vous serez venu avant, moi j'aurais été président, c'est fini, je ferme les frontières.
Oui, ça c'est le débat, mais ça il est dans son rôle là. Voilà. Par contre, je tiens à rappeler une chose intéressante, parce que je vais mettre une petite pichenette au passage, ça peut lui faire du bien. Zemmour qui parle beaucoup de courage et de virilité, ce genre de discours très extrême droit d'ailleurs. Plusieurs fois je l'ai invité, vous le savez très bien Adil. Il se trouve que hier il s'est plaint du fait que Emmanuel Macron refuse le débat contre lui. Alors j'ai envie de dire simplement, même si il a le sentiment d'être la mouche du coche, hein, c'est que s'il veut débattre avec Monsieur Macron, qu'il accepte le débat avec tous les débatteurs. Je l'ai souvent tensé pour ça, je l'ai littéralement provoqué, il n'a jamais répondu alors qu'il est au courant. Donc parce qu'il est au courant, il ne répond pas, c'est qu'il a peur d'avoir un contradicteur sérieux en face de lui. Oui, il a peur. Moi, je dis clairement aujourd'hui, Zemmour a peur de débattre contre moi parce qu'il se sait plus faible.
Eh ben, on lance l'appel.
On laisse l'appel aujourd'hui.
Merci à Farid Aïd, justement conseiller municipal à Pierrefitte. Merci. À très vite ici. Il faut revenir plus régulièrement, Absolument. Mon cher Farid.
Merci. Adil, juste voudrais dire,
oui, allez-y.
Si tu peux me permettre, qu'on organise nos vœux, même si c'est tardif, malheureusement, avec le Covid.
Très tardif,
parce
là.
Très tardif, mais comme apparemment, là, ça va aller mieux. Parce
faut
que,
aller vite.
Faut aller vite. Le vendredi 18 mars à 18h30 à la Bourse du Travail, on fait nos vœux à Saint-Denis.
C'est noté.
Je vous invite.
Eh bien, merci, c'est noté.
Toi aussi, Adil, toi aussi.
Gamal Abina, on y va? On va y aller.
Je vais essayer d'y aller.
Merci, Gamal. Bien là, celui-là. Bilal Lehmann, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme en speed?
Le speed, spécial Real PSG.
Voilà, ce soir.
Tout simplement.
Le sommet le plus court.
C'est ça. Ben oui, on n'a plus le temps.
20h-21h, Bilal Lehmann vous attend. Le Real et le PSG. Aïe, le choc. À la réalisation, c'était Giovanni. À demain avec autant de plaisir, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.